une pierre, deux coups. Une émission mensuelle proposée par le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy, un mardi par mois à 17h30, en rediffusion le mercredi à 10h.
Anaïs Duhamel, Jules Charondière, tous les deux étudiants en paléontologie.
Alors en fait, il se trouve que Gilles Escarguel, donc qui gère globalement les fouilles ici, était notre professeur du coup à l'université de Lyon 1. Donc il nous a donné des cours d'écologie, évolution, un peu de paléontologie. Et donc au fur et à mesure, à force de le côtoyer, même de faire parfois des stages avec lui, on a eu l'opportunité de le rejoindre pendant l'été, pendant une dizaine de jours sur le terrain. Ouais, moi c'est ça, c'est la deuxième année que je viens. Donc voilà, on est très content de revenir chaque année, revoir les collègues de plusieurs laboratoires, donc oui, c'est très sympa. Oui, et encore quelques Montpelliérains, c'est ça en fait, on fait deux groupes qui se chevauchent en fait. Un premier groupe, c'est ça, qui vient déjà ramasser au fond des phosphatières des argiles, qui commence à tamiser, etc. Nous, on prend le relais et on a un week-end où ça se chevauche pendant le safari paléontologique du CLOUP, où globalement, c'est un peu des portes ouvertes ici, et le fait que tous les chercheurs soient là, tous ensemble, on peut vraiment présenter notre travail au grand public. Donc voilà, c'est le week-end où tout le monde est ensemble, et ensuite, oui, c'est la deuxième équipe qui prend le relais pendant encore une dizaine de jours.
Donc le safari paléontologique, c'était samedi dernier, c'était le week-end dernier. Possible. Alors comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu du monde? Quelle a été la réception du public, les réactions?
Ça s'est très bien passé. Un peu moins de monde que l'année dernière, mais ça s'est vraiment très bien passé. Les gens sont toujours très très heureux de voir des fossiles, de voir le travail de paléontologues. On a toujours des parents qui viennent avec leurs enfants et qui nous disent qu'ils aimeraient devenir paléontologues plus tard. Donc on explique un peu les différentes voies d'accès et comment reconnaître en fait les fossiles. Donc oui, ça marche très bien. Les gens sont très contents de voir ce qu'on fait, et il y a beaucoup de gens aussi de la région qui viennent et qui sont très contents de voir un peu comment et valoriser leur patrimoine régional en fait.
Alors les voies d'accès, tu parles en termes de parcours étudiantin?
Oui, c'est ça, c'est totalement en termes de parcours scolaire, parce qu'il y a plein de façons d'arriver au métier de paléontologue, donc les personnes qui sont intéressées par ça, on leur explique les différentes voies possibles.
Alors justement, vous avez deux parcours différents, donc toi tu es passé par une classe préparatoire, Anaïs, tandis que toi, Jules, tu as un parcours, universitaire, entre guillemets classique, hein, avec donc une spécialisation toi sur les pattes pour Jules, et Anaïs sur les oiseaux et sur les migrations.
Oui, juste pour revenir sur le terme de spécialisation, en fait notre filière reste assez généraliste. On fait de la paléontologie plutôt généraliste, et au final c'est plutôt pendant les stages qu'on fait qu'on se spécialise sur un organisme, sur une méthode donnée. Et du coup oui, moi je travaille depuis 3 ans déjà à travers mes stages sur les migrations d'oiseaux. Et donc ce qui nous intéresse, c'est d'essayer de comprendre à quand remontent les premières migrations d'oiseaux et comment elles ont évolué en fait avec les changements climatiques du passé. Parce que là, bon, comme vous le savez sûrement, on vit un changement climatique actuellement causé par l'homme, hein, en grande partie. Mais en fait, par le passé, il y a également eu des changements climatiques sur des résolutions de temps totalement différentes, hein, moins rapides vu que c'était pas encouragé par l'activité humaine comme ça l'est aujourd'hui. Mais en fait, ce qui nous intéresse, c'est vraiment voir comment les oiseaux et leurs habitudes de vie en fait peuvent s'adapter à des perturbations climatiques. L'idée, c'est dans un premier temps de chercher des indices de migration chez les oiseaux actuels, donc sur leurs ossements, parce que typiquement, nous, derrière, on va essayer de savoir si des oiseaux fossiles, des espèces fossiles éteintes, étaient migratrices ou non. Mais sauf que quand on étudie des fossiles, on a juste des ossements à disposition. Donc l'idée, c'est totalement de regarder sur les os d'oiseaux actuels si on a des indices de migration ou pas, et si l'oiseau migrait plus ou moins loin, et ensuite l'appliquer à des oiseaux fossiles. Voilà, donc ça sera mon travail pour les 3 prochaines années. J'ai eu l'occasion de faire beaucoup de stages depuis la L3, la licence 3. Donc j'ai beaucoup bougé, j'en ai fait beaucoup à Lyon, au laboratoire de géologie de Lyon. Et j'avais prévu de bouger un peu à l'étranger pour mes stages, mais ça a été un peu chamboulé décalée avec le Covid, hein, on n'a pas pu bouger autant que prévu. Mais là, pour cette année, j'ai pu bouger un peu. Je suis allée au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, puis à Berlin, au Muséum d'Histoire Naturelle de Berlin. Donc voilà, j'ai bougé un peu, j'ai fait des techniques, enfin j'ai utilisé des techniques qu'on applique en fait aux fossiles, qui sont très différentes. Hein. Ça peut être des études de la composition chimique de l'os, donc ça je l'ai fait à Lyon, c'est ce qu'on appelle de la géochimie, on regarde les isotopes. Ensuite, je suis allée à Paris étudier la composition des protéines, des coquilles d'œufs, donc encore une fois, des méthodes très différentes et du matériel différent, parce qu'on retrouve des coquilles à l'état fossile aussi. Puis après, ça sera plus de l'histologie, de l'étude de tissus, de osseux, en fait. Donc oui, plein de méthodes différentes, dans plein de labos différents, qui font que j'en suis arrivée là aujourd'hui. Il n'y a pas énormément d'oiseaux dans les phosphatières, en fait. Relativement aux autres vertébrés, on en a beaucoup moins, mais on en trouve quand même, surtout dans les anciennes collections, hein, parce que les plus beaux spécimens ont été trouvés déjà il y a assez longtemps. C'est ceux qui sautent le plus aux yeux, entre guillemets, qui ont été trouvés. Et ce qui m'intéresse, en fait, c'est que, comme on te l'expliquait un peu plus tôt, on a les phosphatières, on a une résolution temporelle juste incroyable. C'est-à-dire qu'on a 30 millions d'années d'histoire de vie expliquées sur le même site fossile. Et donc, on peut voir au même endroit comment ont évolué des animaux dans ce milieu-là sur une période donnée. Donc ça, c'est juste incroyable d'avoir cette résolution-là. Et donc, moi, ce que j'aimerais pouvoir faire pendant ma thèse, c'est de récupérer en fait, des oiseaux fossiles qui ont été trouvés à différentes périodes. Donc, ça peut être 40 millions d'années, 30 millions d'années. Et regarder si on trouve des espèces d'oiseaux fossiles qui étaient déjà migratrices dès 40 millions d'années, avant le présent, hein, là je parle dans le passé, et voir comment ces espèces ont évolué en fait, avec les changements climatiques que les espèces ont subis en fait, sur ce milieu-là en fait, il y a 30-40 millions d'années. En fait, tout le monde se prend en jeu, hein, aussi bien les étudiants que les enfants de chercheurs. Enfin, c'est un moment très très sympa qu'on passe tous ensemble, on se retrouve tous les étés. Mais oui, en général, les plus néophytes, hein, les plus ceux qui s'y connaissent entre guillemets le moins, on arrive très bien à identifier les morceaux d'os en fait dans les argiles, hein, dans tout ce qu'on a tamisé et récupéré comme sédiments. Ça se voit très bien, mais nous, vu qu'on n'est pas encore très habitué à identifier tous les os, on arrive au mieux à dire s'il s'agit d'un rongeur, d'une chauve-souris, d'un myriapode, mais on n'arrive pas forcément à aller jusqu'à l'identification de l'espèce en particulier. Et surtout, il faut savoir aussi qu'il y a plein de fragments d'os cassés. On ne retrouve pas forcément, et même c'est assez rare, de trouver des os entiers. Et donc, dans ce cas-là, c'est très dur à identifier. Ne serait-ce de dire de quel os il s'agit, en fait. Et dans ce cas-là, c'est plutôt les chercheurs experts qui vont savoir dire quel type d'os, quel type d'espèce c'est. Donc nous, on fait vraiment un pré-tri grossier où on isole tout ce qui ressemble à de l'os. Et ensuite, les chercheurs arrivent à identifier de quelle espèce, etc., il s'agit. Ils sont très très forts, hein, vraiment, ne serait-ce qu'avec un tout petit fragment d'os qui pour nous ressemblera à pas grand-chose, eux arrivent à vous dire de quoi il s'agit.
Qu'est-ce qui fait un bon paléontologue, selon vous ?
Je pense que c'est très pluriel, il n'y a pas un seul profil de bon paléontologue. Je pense que bon, ce qui regroupe tout le monde, ça reste quand même la passion. Faut aimer, oui. Aimer ce qu'on fait. Faut
après, ici, on peut pas trop comparer en fait les étudiants qui viennent d'arriver, qui ont peu d'expérience, et les chercheurs qui bossent depuis 10 ans sur ce site. C'est pas parce qu'ils ont plus d'expérience qu'ils sont des bons et que les étudiants sont mauvais. Ici, on a une équipe qui est très qualifiée, mais
avec quelque chose quand même d'assez notable, c'est que ici vous êtes en lien avec le public. C'est en fait, c'est une phosphatière où il y a du public qui passe, et tous les jours pour une visite, il y a un paléontologue qui fait une visite, donc il y a la possibilité pour le public d'échanger avec peut-être avec des scientifiques renommés, mais aussi avec des étudiants. Et...
Ça c'est juste génial, c'est vrai en fait. Du coup, comme on l'expliquait, 20 jours par an, il y a des paléontologues vraiment qui sont sur place. Parce que le reste de l'année, les paléontologues, nous, on retourne dans nos labos, on ne reste pas sur site. Mais oui, vraiment, le grand public est très content de pouvoir voir, échanger avec les paléontologues. Nous, on fait tout ce qui va être tamisage, tri des fossiles, du coup, sur le site du Club d'Oral. Et donc nous, dès qu'on voit des touristes, entre guillemets, des visiteurs passer devant nous quand on tamise, ils sont toujours très curieux de savoir qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait et qu'est-ce qu'on trouve surtout. Donc nous, nous, on leur explique vraiment les démarches. C'est ça, pendant le safari paléonto, on les laisse même tamiser un peu avec nous, faire du tri sous les binots avec nous. Donc oui, non, c'est très intéressant de voir un peu le quotidien de terrain du paléontologue.
Et qu'est-ce que c'est les questions les plus récurrentes, enfin les plus fréquentes que vous avez ?
Oui, j'ai entendu pas mal de visiteurs demander la formation justement pour faire ce genre d'activité. Je crois qu'on a aussi beaucoup de questions sur c'est quoi les animaux qu'on trouve.
C'est ça. On a souvent des questions, une question qui revient très souvent, qui nous fait toujours bien rire. Elle tombe au moins une fois par an, cette question-là. C'est, vous êtes des chercheurs, mais est-ce que vous trouvez des choses ?
Ouais.
Donc ça nous fait toujours bien rire. On trouve des choses et on leur montre un peu ce qu'on trouve à ce moment-là.
Moi, en fait, les mille pattes, j'avais jamais travaillé dessus avant cette année, en fait. Moi, j'ai commencé à. Du coup, j'ai un parcours assez similaire à celui d'Anaïs. Du coup, c'est juste que moi, au lieu d'avoir fait une classe préparatoire, j'ai fait en fait la licence qui était proposée par l'université Lyon 1. Moi, je voulais faire de la paléontologie très tôt. Je me suis pris d'intérêt pour un groupe d'animaux qui s'appelle les arthropodes, qui sont, pour faire simple, un groupe où on retrouve tous les insectes, les crustacés, les mille pattes et les araignées, les scorpions, ce genre de bestioles. Et j'ai fait des stages sur des crustacés fossiles, et même sur les trilobites une fois. Et là, en fait, du coup, en gros, pendant ma dernière année de master, il y a un des chercheurs avec qui j'avais fait mon stage, un de mes stages, qui m'a contacté pour me proposer un stage sur les mille pattes du Quercy, qui était un groupe qui avait été très peu étudié parce que, en fait, le Quercy, c'est vraiment un site qui est dominé de très loin par les vertébrés, et notamment les mammifères, avec quelques reptiles, amphibiens et oiseaux. Dans les gisements, il y a énormément de vertébrés. Enfin, il y a, je dirais, à 80, 98, 99%, c'est des vertébrés. Et du coup, par extension, les chercheurs qui se sont spécialisés sur ce site font beaucoup de... ils font beaucoup de vertébrés parce que c'est une source d'information qui est très importante sur les mammifères. On a eu certains articles sur des insectes, mais du coup, voilà, les mille pattes, on n'avait pas grand-chose jusque-là. Il y a une seule espèce qui a été décrite pour tout le gisement, qui a été décrite il y a pas mal de temps, en 1944. Alors que c'est absolument pas la seule espèce de mille pattes qu'il y a. En fait, rien que par l'extension temporelle du gisement, on peut dire qu'il y a plusieurs espèces de mille pattes parce que du coup, chaque gisement en fait est associé à une date particulière. Et en sachant que la durée de vie d'une espèce en moyenne, c'est à peu près 2 millions d'années d'écart. Sachant qu'on a, la différence entre deux sites est souvent bien plus importante, rien que par la différence de temps qui s'est écoulée d'une localité à l'autre, en fait, on peut dire que les mille pattes sont d'espèces différentes. Le problème, c'est qu'on a très souvent juste en fait des morceaux du corps des mille pattes qui sont pas toujours très informatifs sur la famille à laquelle ils appartenaient. Et ça, c'est ce qui nous intéresse en fait. Et il y a aussi un axe assez intéressant que j'ai développé pendant mon stage, c'était le mode de vie de ces myriapodes. Les restes qu'on a, ce sont des restes qui sont retrouvés dans les cavernes d'animaux qui vivaient en surface. Mmh. Donc ils se sont retrouvés, la plupart se sont retrouvés là accidentellement, soit c'était les animaux qui tombaient dans les crevasses et qui restaient piégés, soit ce sont des sédiments qui ont été charriés par les courants et qui se sont retrouvés dans les cavernes. Et les myriapodes, en fait, on s'est demandé du coup, est-ce qu'ils étaient dans le même cas que ces animaux-là ? Est-ce qu'ils sont tombés accidentellement dans les cavernes ? Ou alors, est-ce qu'ils vivaient là ? Est-ce que c'était des animaux cavernicoles ? Il y a certains caractères qu'on retrouve typiquement chez des animaux cavernicoles, et on a essayé de voir si on retrouvait ces mêmes caractères chez les fossiles. Les caractères qu'on trouve, c'est par exemple ça, c'est les changements de taille du corps ou des appendices. Là, vu qu'on avait c'était assez fragmentaire à ce niveau-là, on pouvait pas. Il y avait aussi les animaux cavernicoles ont souvent tendance à être assez dépigmentés, c'est-à-dire ils ont des peaux un peu blanchâtres, translucides. Bon, ça, on pouvait pas non plus le voir sur les fossiles. Il y a un truc qu'on pouvait voir, c'était les yeux. Parce que souvent, les espèces cavernicoles, leurs yeux s'atrophient jusqu'à parfois disparaître complètement. Et avec des, en fait, des techniques d'imagerie assez avancées à l'université, on a regardé les têtes qu'on avait, les quelques têtes qui étaient préservées chez ces mille-pattes. Et on a pu observer leurs yeux et on a vu qu'ils étaient effectivement assez atrophiés. Alors c'est pas un caractère très diagnostique parce qu'il y a des espèces de surface qui ont des yeux réduits et des espèces cavernicoles qui ont des yeux normaux, donc ça, c'est un trait qui se suffit pas en lui-même, mais on a d'autres informations qui tendent plutôt vers cette hypothèse, notamment le fait qu'on ait retrouvé en forte abondance dans les cavernes. J'ai aussi passé pas mal de temps à comparer en fait les spécimens fossiles à des spécimens équivalents actuels en termes d'écologie, d'anatomie et de répartition aussi. Le mode de vie cavernicole, c'est quelque chose qui est assez répandu dans les espèces qui sont les plus proches de ces spécimens-là. D'ailleurs, au niveau répartition, j'ai aussi trouvé quelque chose de très intéressant puisque les équivalents les plus proches du Quercy, ce sont des espèces qu'on trouve en Amérique du Nord et en Asie du Sud-Est et un peu en Moyen-Orient, mais nulle part ailleurs. Les spécimens du Quercy, ce sont les seuls représentants de ce groupe de mille pattes de l'Europe de toute l'histoire. C'est tout un domaine en fait qui est la paléobiogéographie en fait, où c'est la reconstitution en gros de comment les répartitions ont varié au cours du temps. Il y a une dimension à la fois géographique et temporelle. Il faut aussi prendre en compte l'aspect climatique et tectonique qui est très important parce que à ces échelles-là, oui, les continents, ils étaient pas exactement sur les mêmes positions qu'aujourd'hui. Il y avait aussi le niveau marin qui a fortement varié. On avait des voies qui étaient accessibles à l'époque, qui étaient inaccessibles, et du coup il y a des flux qui ont pu se faire, qui peuvent plus se faire aujourd'hui. Donc il faut prendre en compte toutes ces choses, et c'est pour ça qu'il faut qu'on regarde des cartes de ces époques-là en fait. Ça nous donne beaucoup d'informations. On va essayer de voir si on peut publier justement les choses que j'ai trouvées, et c'est pour ça que c'est assez important les choses qu'on voit ici, parce que si jamais on a des éléments nouveaux qui viennent s'ajouter à l'équation, ça peut être intéressant de les prendre en compte pour redévelopper, parce que là le travail que j'ai fait, pour l'instant il est dans un mémoire de stage, mais il n'est pas publié. Dans l'équipe, on a trouvé quelques mille pattes quand même, donc j'ai eu deux trois spécimens à même un peu plus à mettre sous la dent. Mais bon, on sait qu'ils sont là, ils n'ont pas encore été vus en détail pour l'instant.
Et le programme là des derniers jours, quel est-il?
Comme d'habitude, hein, on tamise, on trie, on va avoir quelques terrains qui vont arriver là.
C'est ça. Là, sur ces derniers jours, on va aller directement en fait au fond des phosphatières, récupérer donc les argiles qui contiennent les fossiles. Donc c'est ça qu'on utilise ensuite, qu'on tamise, etc. Jusqu'à présent, nous, on n'a pas fait beaucoup de terrain depuis qu'on est là. Mais oui, là, c'est l'occasion d'aller vraiment sur le terrain avec des spéléologues en fait qui eux ont l'habitude, hein, parce que on descend dans des grottes, c'est dangereux, faut être bien équipé. Donc oui, là, on va faire du terrain, on va ramener les argiles. Et puis oui, comme disait Jules, ensuite, la routine, on fait sécher les argiles, on les tamise, puis on les trie sous la loupe binoculaire. Pour moi, ce sera petite coupure vacances familiales, ouais. Puis c'est rebelote pour un terrain de paléontologie, parce que du coup, avec le spécialiste d'oiseaux qu'on a ici avec nous, Antoine Mouchard, on va partir faire des fouilles sur l'île Sainte-Hélène. Voilà, donc oui, ce sera quoi? Ce sera quelques semaines de fouilles sur le terrain, donc avec des enjeux un peu différents d'ici, parce que c'est pas du tout le même type de sédiments. Et là-bas, on y va vraiment avec un but exploratoire. On a des données historiques qui nous disent qu'on avait que des anciennes, très vieilles expéditions avaient déjà permis de trouver des fossiles, mais sans forcément des précisions sur l'endroit de l'île où ça a été trouvé, etc. Et depuis, il n'y a quasiment pas eu de nouvelles expéditions. Donc nous, vraiment, notre démarche, c'est d'aller là-bas, de prospecter, de chercher des endroits où on trouve du fossile et de tout ramener ça chez nous pour l'étudier. C'est aussi des choses qui pourront me servir, hein, typiquement pendant ma thèse.
On va essayer de publier le travail que j'ai fait sur les spécimens du Quercy. Malheureusement, j'ai pas eu l'opportunité de pouvoir poursuivre ce sur quoi j'ai travaillé dans le Quercy. Donc là, je vais essayer de chercher une opportunité quelque part. Mais voilà, là pour l'instant, je me concentre sur le Quercy. J'étais gentiment invité par du coup le responsable des fouilles qui était un de mes encadrants pendant mon stage. Donc voilà.
Gilles Escarguel, paléontologue, macro-écologue, enseignant-chercheur à l'Université Lyon 1.
Depuis 2016 maintenant, les phosphatières du Quercy sont une réserve nationale géologique. Et donc à ce titre, plus personne ne peut faire des fouilles dans ces phosphatières sans autorisation. Et donc chaque année, on monte un dossier de demande d'autorisation de fouilles où on explique pourquoi est-ce qu'on veut fouiller, dans quelle phosphatière on veut aller. Et donc il faut un responsable, et en l'occurrence depuis 2016, c'est moi.
Comment on coordonne des géologues, des paléontologues d'âges différents, donc avec des jeunes comme Julie et Anaïs, avec des gens, j'imagine, avec une certaine renommée, plus âgés, avec une certaine pratique. Comment on fait pour coordonner tout ce petit monde ?
Eh bien, on se coordonne sur des centres d'intérêt, des objets et des objectifs communs. On a d'une certaine façon tous besoin les uns des autres pour pouvoir avancer, chacun avec sa spécialité, chacun avec ses centres d'intérêt. Et voilà, le but du jeu, c'est qu'on travaille dans plusieurs universités différentes tout au long de l'année, à Montpellier, à Lyon, à Poitiers, au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, et chacun avec nos spécialités. Et donc, on se met autour d'une table, souvent virtuelle, mais parfois réelle. C'est l'occasion des fouilles d'été de penser déjà à la saison de l'année qui suit. On se met autour d'une table et on se demande quels objectifs nouveaux on peut se fixer. Et ce d'autant plus que même si ça ne coûte pas très très cher, il faut quand même avoir un petit peu de financement pour pouvoir faire tout ça. Et donc demander des financements. Les financements ne tombent pas du ciel au moment où on les demande. Il faut convaincre des experts, d'autres experts, que ce qu'on a envie de faire est intéressant, est utile, peut nous apprendre de nouvelles choses. Voilà, donc c'est souvent autour de projets de financement, de projets que l'on souhaite financer, qu'on s'interroge chacun les uns les autres sur comment est-ce qu'on a envie de s'organiser. Et puis voilà, finalement, le coordinateur au milieu de tout ça fait juste que mettre un petit peu de sauce autour de la viande, mais sans forcément apporter beaucoup plus que chaque élément, que chaque membre du groupe.
Donc là, qu'est-ce qui émerge pour, sachant qu'on arrive à la fin de cette période de fouilles, qu'est-ce qui émerge en termes de projet ou de réflexion pour les fouilles de l'année suivante, en 2023 ?
Déjà beaucoup de choses, parce qu'en fait, on termine cette année un cycle de 4 ans qui a été financé par l'Agence nationale de recherche, de financement de la recherche. Et qu'on se demandait jusqu'à il y a quelques semaines comment est-ce qu'on allait pouvoir continuer. Et puis maintenant, on le sait, puisqu'on a déposé à cette même agence de financement un nouveau projet pour 4 ans qui vient d'être accepté. Donc voilà, et qui dit projet dit évidemment objectif scientifique. On travaille sur un temps géologique qui est extrêmement long, puisque les 200 phosphatières que nous connaissons aujourd'hui couvrent environ 30 millions d'années, et on sait que dans cet intervalle de temps couvert par les fossiles retrouvés dans ces phosphatières, il y a une période très particulière qui nous intéresse beaucoup en ce moment, une période de grands changements climatiques qui a d'énormes impacts, d'énormes conséquences sur les êtres vivants à cette époque-là dans le Quercy. Et donc toute notre attention actuellement, le focus scientifique que l'on porte depuis 4 ans et qu'on va continuer à porter, est sur précisément ce qui se passe à ce moment-là pour les animaux et maintenant pour les végétaux, puisque l'originalité de ce nouveau contrat est qu'on va aussi étudier les restes de végétaux fossiles que l'on trouve dans les phosphatières, pour les animaux donc et les végétaux, comment ces êtres vivants réagissent à un changement climatique très profond qui a lieu il y a 34 millions d'années, c'est très 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 loin de nous, les êtres humains n'existaient pas encore sur Terre à ce moment-là. À 34 millions d'années, un changement climatique d'origine naturelle a lieu et modifie profondément les conditions de vie des êtres vivants. Et c'est ça qui nous intéresse tout particulièrement. Alors les géologues appellent ça la transition entre l'Éocène, qui est l'étage avant, l'étage géologique avant, et l'Oligocène, qui est l'étage géologique suivant. La limite entre ces deux états géologiques date d'il y a 33,9 millions d'années, très précisément, donc disons 34. Les paléontologues appellent ce moment-là, et depuis plus d'un siècle maintenant, la grande coupure, parce que dès le début du XXe siècle, quelques paléontologues en Europe s'étaient rendus compte qu'il se passait quelque chose de très profond dans l'évolution des animaux, notamment, et des mammifères en particulier, à ce moment-là, avec l'arrivée en Europe de mammifères qui, jusqu'alors, n'y existaient pas, n'y vivaient pas, mais que l'on connaissait pourtant ailleurs. Et cet ailleurs, c'était l'Asie et l'Amérique du Nord. Jusqu'à la fin de l'Éocène, jusqu'à il y a 34 millions d'années, l'Europe évolue, les faunes, les animaux qui vivent en Europe évoluent de façon très endémique. Isolés du reste du monde, on trouve en Europe, à l'Éocène, des êtres vivants absolument uniques pour le monde de cette époque-là. Et puis, il y a 34 millions d'années, au moment de ce grand changement climatique, des vagues de migration importantes ont lieu d'Amérique du Nord en Asie et puis d'Asie en Europe et changent, renouvellent complètement le paysage animalier à cette époque-là. Et c'est ça qui nous intéresse de façon très forte en ce moment. Comment est-ce que des animaux, des êtres vivants qui évoluent depuis des millions d'années de façon en milieu fermé finalement, en cercle clos, comment est-ce qu'ils réagissent ou pas à l'arrivée massive de nouvelles espèces qu'on pourrait d'une certaine façon qualifier d'invasives, d'envahissantes, et qui viennent peupler, coloniser des environnements dans lesquels elles n'existaient pas jusqu'alors.
On va parler de technicité. Thierry, tout à l'heure, me disait que les techniques d'analyse ou d'observation des fossiles ont largement évolué ces dernières années.
On s'est notamment accommodé et on a notamment appris à travailler en fait, avec des techniques qui pouvaient par ailleurs être utilisées par d'autres scientifiques, mais dans d'autres contextes et dans d'autres objectifs. Par exemple, on s'est emparé de techniques d'analyse chimique des fossiles afin d'en connaître la composition chimique. Des compositions chimiques qui, dans une certaine mesure, restent stables pendant très 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 longtemps. Alors ces compositions chimiques, elles vont nous apprendre, par exemple, quels étaient les régimes alimentaires des différents, ce qu'ils mangeaient, ce que mangeaient différents animaux. Et ça va être intéressant parce que les paléontologues savent depuis très longtemps que, par exemple, la forme des dents conditionne directement ce qu'un animal est capable de manger ou pas. Et il est possible, grâce à ces analyses chimiques, d'être plus précis que ça. Par exemple, en disant pour un animal omnivore, c'est-à-dire qui est capable de manger à la fois de la viande, des protéines animales et des protéines végétales, est capable de dire quel était le pourcentage de protéines animales ingérées en moyenne par cet animal et le pourcentage de protéines végétales. Donc des techniques qui vont nous permettre de préciser des choses que l'on savait déjà plus ou moins de façon qualitative, et là on va pouvoir mesurer, quantifier plus précisément ce genre d'informations. À côté de ça, on dispose maintenant depuis quelques années de techniques d'imagerie qui nous viennent pour la plupart directement du monde médical, du monde de l'imagerie médicale, mais on va dire améliorée, on va dire mise à l'épreuve des fossiles d'une certaine façon. Je pense par exemple aux techniques d'imagerie scanner qu'on utilise aujourd'hui en routine dans les examens médicaux et des scanners qui sont d'une certaine façon améliorés, notamment en termes de finesse de l'image obtenue, de qualité de la description obtenue, et qui nous permettent non seulement d'avoir des images extrêmement précises de la surface des fossiles, mais surtout, et en fait c'est encore plus intéressant, d'aller voir à l'intérieur des fossiles des choses que l'on ne pourrait pas voir sinon en cassant le fossile. Et donc là où, jusqu'il y a une dizaine, quinzaine d'années, on ne pouvait examiner l'anatomie interne de fossiles qu'en détruisant le fossile, ben aujourd'hui on n'a plus besoin de le détruire, il suffit de le mettre sous un scanner et on voit directement à l'intérieur, de la même façon que pour voir à l'intérieur d'un être humain, on n'a pas besoin de l'ouvrir.
Je te propose qu'on finisse avec cette interview, avec le public, enfin le lien avec le public là, qui est clairement indissociable de ce lieu. Comment se fait le lien avec le public? Est-ce qu'il se fait facilement?
Moi, de par ma formation et mon métier à la fois d'enseignant et de chercheur, je suis évidemment, comme la plupart des personnes qui travaillent de façon permanente dans les universités, un fonctionnaire, c'est-à-dire payé par l'impôt de tout un chacun. Et c'est donc dans mes missions, et je ne suis pas le seul à faire ça, loin de là, que de prendre du temps avec le public, avec les personnes qui nous payent, pour leur expliquer le pourquoi du comment de ce que l'on fait et l'intérêt que ça représente et ce que ça nous apprend. Donc effectivement, pour nous, les moments de fouille ici, avec notre camp de base au Club d'Oral, sont des moments très privilégiés de rencontres. Ça se fait très très simplement, parce que nous passons une partie de la journée derrière des bassines pleines d'eau, à tamiser des sédiments, et que évidemment les touristes qui passent devant au retour de la visite du Club d'Oral sont curieux de ce que l'on fait, et le dialogue s'installe immédiatement, et on leur explique, on leur précise ce que l'on fait, et on leur montre en temps réel les fossiles sortir des tamis. Et puis il y a la phase de tri et d'inspection des fossiles avec des microscopes et des loupes grossissantes, et là aussi en temps réel les touristes, les personnes qui passent au Club d'Oral peuvent voir le travail que l'on fait, et les centaines, les milliers, et c'est pas une expression, c'est littéralement au terme de chaque session de 15 jours de fouille, des milliers voire des dizaines de milliers de fossiles qui sont sortis des phosphatières et qui sont ramenés ensuite, pour études, dans nos universités respectives, puisque pour 15 jours de fouille, eh bien, il va y avoir 10-12 mois de travail au laboratoire derrière. Bien sûr, il y a la curiosité déjà de savoir comment est-ce qu'on en est rendu là, parce que c'est quand même pas banal et c'est pas trivial non plus de rencontrer des personnes qui passent de longues heures, sinon de longues journées, et pour certains de longues années, à regarder des fossiles et à les décrire et à les comparer et à essayer de comprendre l'histoire qu'ils nous racontent. C'est un métier qui est quand même pas très très ordinaire. C'est un métier de curiosité, c'est un métier de passion. Et évidemment, de nombreux touristes qui passent par le Club d'Oral sont eux-mêmes déjà en amateurs, intéressés, sinon passionnés par cette histoire. Et bien sûr, oui, ça fait partie de nos interactions que de parler avec tous ces gens-là, y compris les publics les plus jeunes, les collégiens, les lycéens qui, pour certaines et certains, se passionnent déjà pour des fossiles. Alors on pense aux dinosaures, mais on essaie au Club d'Oral de leur montrer qu'il n'y a pas que les dinosaures dans la vie et qu'il y a des choses tout aussi intéressantes. Et voilà, et ils passent quelques heures avec nous, et les plus passionnés peuvent même parfois rester une journée entière s'ils le souhaitent. Chaque année, on organise un safari paléontologique où le grand public a la possibilité de venir travailler une journée avec nous, une demi-journée plus exactement avec nous, et c'est une expérience dont ils sortent rarement déçus, parce que ça permet de passer en revue depuis le voyage dans une phosphatière où on va chercher dans des conditions plus ou moins acrobatiques des sédiments, jusqu'au retour au camp de base, le lavage, le tamisage et le tri avec les loupes binoculaires. Voilà, de réaliser l'étendue du travail que ça représente, hein, sachant que ça fait maintenant plus de 50 ans que des paléontologues, année après année, se succèdent dans le Quercy. Parce qu'il faut quand même le dire, on est ici dans une région qui est absolument unique au monde. Nulle part ailleurs sur Terre, il existe, sur une surface aussi réduite que ça, autant de phosphatières qui racontent une histoire de l'évolution des êtres vivants aussi longue que celle-là. Puisqu'entre les phosphatières les plus anciennes et les phosphatières les plus récentes, Les plus anciennes datent d'il y a 50 millions d'années, les plus récentes datent d'il y a 20 millions d'années, faites le calcul, 30 millions d'années d'évolution racontée dans une région de quelques milliers de kilomètres carrés. Eh bien ça, nulle part ailleurs dans le monde, on a ça.
Toi, tu viens depuis de nombreuses années dans le Quercy pour ces fouilles chaque année. Et justement, est-ce que tu as l'impression que les locaux, tu commences à connaître des locaux, tu commences à connaître des autochtones, est-ce que tu as l'impression que justement, ils sont sensibles à ça et qu'ils se rendent compte du fait qu'il y a un lieu aussi exceptionnel en fait sur ce territoire.
Oui, et de plus en plus, et de plus en plus vite, et c'est vraiment, vraiment très réjouissant pour nous, parce que c'est vrai que lorsque les fouilles ont commencé, dans les années 60, 70, 80, l'accueil n'était pas forcément toujours extrêmement enthousiaste, il l'était souvent, mais on a aussi parfois été accueillis de façon très réservé, sinon voire même hostile. Et le fait de voir qu'aujourd'hui, y compris les plus réservés et les plus hostiles, sont désormais absolument enthousiastes et nous encouragent et nous invitent et font eux-mêmes de la prospection pour essayer de trouver de nouvelles phosphatières que nous allons visiter immédiatement l'été d'après, tout ça est très très réjouissant et donne confiance de ce point de vue-là dans l'avenir, parce que voilà, il y a un travail énorme qui a été fait et qui est fait depuis maintenant plus de 20 ans au Club d'Oral. Il y a un travail énorme qui est fait désormais au niveau du parc national des Causses du Quercy via le géoparc UNESCO. Il y a quand même très très peu dans le monde de sites qui sont classés par l'UNESCO au titre du patrimoine géologique. Et désormais, les phosphatières du Quercy le sont. Elles sont reconnues au niveau mondial comme étant un trésor paléontologique digne de respect, comme peut l'être n'importe quel élément culturel classé au patrimoine mondial de l'humanité. Pour nous, ce sont les géoparcs mondiaux UNESCO, et c'est une grande fierté, et c'est un élément moteur dans l'appropriation de cette richesse paléontologique, de cette richesse scientifique, par les habitants du Quercy.
Merci Gilles.
Avec plaisir.